première, tout autre chose.
Martine Cornil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la première. Aujourd'hui, dans Tout Autre Chose, nous allons parler notamment des SDF et tenter de ne pas parler sur les SDF, ce qui est quand même totalement différent. Trois invités pour en parler avec nous, pour évoquer aussi des initiatives, toutes initiatives différentes, mais qui ont quand même pour objet et pour sujet ce qu'on appelle aujourd'hui encore les SDF. Il y a à nos côtés Émilie Messens, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une des fondatrices des infirmiers de rue. On parlera dans quelques instants de ce que vous faites dans la rue, de quelle manière vous allez à la rencontre de ceux qui s'y trouvent. À vos côtés, il y a Isabelle Barry, bonjour. Vous êtes écrivain et vous êtes co-auteur avec Caroline Wolvespe, je ne vais pas arriver à dire son nom, d'un livre magnifique. Et c'est marrant parce que, enfin non, c'est pas marrant, mais en lisant cet ouvrage que je trouve vraiment extraordinaire, je me dis, mais comment présenter un ouvrage comme celui-là? Parce que il y a un côté parfois presque indécent à dire qu'un ouvrage est beau quand il traite d'un sujet aussi douloureux quand même pour ceux qui le vivent et pour ceux aussi qui vivent à leur côté. Et en même temps, il n'y a pas d'autre mot à utiliser, me semble-t-il, que celui-là. Cet ouvrage est magnifique, il est
beau,
il est poignant, il est touchant. Il s'appelle Juste un regard, c'est un hommage aux Bruxellois de la rue et c'est la rencontre entre une écrivaine, vous, et une photographe. Et c'est publié aux éditions Avant-Propos. Et puis Laurent Durcel est à nos côtés. Laurent Durcel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artiste plasticien. Je peux dire aussi que vous êtes une sorte d'agitateur public.
Absolument.
Voilà, artiste.
Au privé, je suis très calme.
Donc, artiste plasticien. Et si vous êtes là aujourd'hui avec nous, c'est parce que vous faites vous appelez à une manifestation de SDF le 31 décembre avec le collectif Manifestement. Mais plus encore, vous appelez surtout à ce que des bénévoles puissent vous rejoindre. On va parler bien évidemment de cette initiative. Et puis, n'hésitez pas les uns et les autres à vous interpeller si vous le souhaitez. L'émission commence toujours par une illustration sonore. Forcément, nous sommes en radio. Et puis aussi vous rappeler que vous pouvez vous aussi intervenir, soit en nous appelant au 02 737 26 06, soit encore par courriel www.lapremiere.be ou par SMS au 6031, cela vous coûtera 50 centimes le message. Alors illustration, on a été fouillé dans les archives, c'est une archive extrêmement connue, mais peut-être pas pour les plus jeunes d'entre nous. Et je sais qu'ils sont nombreux parmi les ados à être chez eux en ce moment, parce que les examens sont finis, parce que les professeurs corrigent et que donc ils sont à la maison. Alors peut-être que s'ils ne sont pas sur internet, ils écoutent la radio. Donc ils vont peut-être découvrir cet appel qui avait été lancé, vous vous en souvenez, en 54, durant l'hiver 54. C'était l'appel de l'abbé Pierre.
Mes amis, au secours! Une femme vient de mourir gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit où l'on lise ces simples mots: toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.
Voilà, c'était en 1954, on aurait pu imaginer que ce type d'appel n'ait jamais été relancé, et pourtant aujourd'hui il pourrait être relancé tous les jours dans toutes nos villes de pays riches et dits civilisés. Alors je vais d'abord me tourner vers vous, Laurent Durcel. Ce collectif manifestement qui appelle les SDF à manifester, pourquoi ?
C'est la deuxième édition d'une manifestation qu'on avait prévue au début de cette année et qui avait un titre un tout petit peu excessif sans doute, qui était « Les SDF descendent dans la rue pour exiger une baisse du prix de l'alcool ». Pour des tas de raisons, cette manifestation n'a pas pu se passer. Et une autre idée, parce qu'on tenait très fort à donner la parole aux SDF, une occasion en or, c'était vraiment sur un plateau d'argent nous a été offerte par la Commission européenne, qui a lancé l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 2010. Et je suppose que l'infirmière de rue ici présente confirmera le fiasco absolu de cette année, est notoire et on lit à gauche et à droite qu'il y a plus de SDF, sans doute entre autres à cause des sans-papiers. Il y a plus de SDF dans la rue à la fin de cette pseudo-année de lutte contre la pauvreté, année européenne, qu'au début de cette année. Donc c'était une vaste plaisanterie d'un goût extrêmement douteux. Et ce que nous proposons au SDF, c'est une... Donc nous faisons, le collectif manifestement organise une manifestation par an. Celle-ci a plusieurs particularités. La principale, c'est que c'est une, pour la première fois, nous faisons une manifestation clé en main. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons manifester, c'est uniquement des SDF. Nous faisons appel, et comme vous l'avez dit, à des volontaires, et il y en a toujours trop peu. Je vous en supplie, allez sur le site pour voir comment vous pouvez nous aider à entrer en contact avec les SDF. C'est une expérience qui traumatise beaucoup de personnes, mais aucun des volontaires jusqu'à présent n'est ressorti déçu, agressé, violenté. Tout le monde dit finalement c'était pas grand chose. Et n'oubliez pas une chose, c'est que tout le monde le dit, c'est écrit partout, c'est confirmé. La chose dont ils souffrent le plus, ce n'est pas le froid et le faim, c'est le regard d'indifférence, de feinte négligence quand on passe à côté et qu'on leur adresse même pas la parole, pas un regard, rien du tout. C'est ça qui les fait le plus souffrir. Et les volontaires ont cette chance extraordinaire de n'être pas infirmiers de rue, de n'être pas curés, de n'être pas flics, de n'être pas assistants sociaux. Et c'est une force que nous avons dans ce projet. Et nous le ressentons très fort dans l'accueil assez fantastique que les SDF nous réservent, à savoir qu'ils sont, comme vous savez, saturés de normativité, de conseils, de bonnes intentions et de promesses. Nous avons la particularité de n'offrir absolument aucune promesse, mais un dispositif pour leur permettre de pousser un cri politique, hautement politique, une prise de parole, puisqu'il s'agit d'enterrer en beauté, pas en manifestant, par leur seule présence physique le 31 décembre, place de l'Albertine à 15h, ils montreront par leur nombre que cette année était une vaste et indécente plaisanterie.
Puisque vous venez d'évoquer le fait que ce dont il manque le plus, ce n'est ni de manger, ni d'abri, mais plutôt de regard, et que ce livre s'appelle « Juste un regard ». Isabelle Barry, je vais me tourner vers vous, et puis je me tournerai évidemment vers vous, Amy Messens, avec en sous-titre un hommage aux Bruxellois de la rue. Quand même, la genèse de ce projet, pas évident. Enfin, alors moi, je la connais, la genèse, puisque je l'ai lu et que vous l'expliquez quand même en long et en large, et que vous dites aussi à quel point ça vous a posé question quand même avant de l'entamer et d'aller sur le terrain en faisant mais finalement de quel droit deux jeunes femmes venant des quartiers huppés de la capitale, est-ce que nous allons poser un regard, est-ce que nous allons aller à la rencontre de ces gens, quelles sont nos intentions premières finalement, c'était aussi un regard sur vous-même avant de commencer. Oui, alors la jeunesse c'est quoi?
Oui, bien sûr, le regard, il va un petit peu dans les deux sens. Et comme le disait Laurent, je pense que c'est effectivement l'ignorance qui est la plus difficile pour eux, puisqu'on parle, on passe à côté d'eux, souvent sans les voir.
Ou en ne voulant pas les voir.
En ne voulant pas les voir, oui, en restant dans un espèce de confort. Et c'est ce confort de notre milieu, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans la problématique de ne pas avoir de domicile fixe. Cette ignorance qu'on a voulu un petit peu bousculer dans le livre, par la photo et par les
et
mots,
par le texte.
En leur donnant la parole. C'était ça vraiment l'idée, c'est dire bon, on n'y va pas, on essaie de laisser tomber tous nos préjugés sur la question, on essaie de ne pas prendre parti, on essaie de ne pas arriver avec des faits, de ne pas vouloir trouver une solution, simplement leur laisser la parole d'une manière ou d'une autre.
On n'y allait pas en tant que sauveuse.
Voilà, tout à fait. On n'y allait pas en tant que sauveuse, on y allait en tant que, on vient vous voir, on vient parler avec vous. Et cette idée de leur parler, tout en gardant toujours évidemment le respect, c'était la première idée, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de photos ou jamais eu de textes qui sont sortis avec un manque de respect en disant bon voilà, on a filmé, on a pris en photo, on a entendu quelque chose et on va le mettre parce que ça va parler, parce que c'est criant, etc. Toujours essayer de garder ce respect en premier plan.
Ils savaient que vous faisiez un livre.
Oui. Oui, c'est-à-dire qu'on leur a tout de suite dit notre intention. On a tout de suite dit, voilà, notre idée, c'est d'offrir un regard sur votre monde à partir de notre monde. On n'a pas envie de faire un scoop, de mettre ça en première des journaux, de faire des photos terribles où on vous voit dans la détresse. Vous êtes un monde comme le nôtre, des gens comme nous. On a simplement envie qu'il y ait un autre regard, qu'il y ait un dialogue qui s'installe. Et je pense que le fait de juste offrir ce regard, comme disait Laurent tout à l'heure, de simplement parler avec eux, a fait qu'on a déjà franchi une frontière contre le déni, ce déni qu'on a de ces gens-là, en général, quand les gens passent dans la rue et ne le regardent tout simplement pas. Donc l'idée était vraiment de... Il n'y a pas de culpabilité non plus par rapport aux gens, aux lecteurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu culpabiliser les gens en disant « Regardez, ces gens sont dans la rue et nous on ne fait rien », etc. C'était pas ça l'idée du tout non plus. C'était juste l'idée d'offrir un regard et que ça soit, tripal. Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y ait une certaine intimité qui se crée pour que les gens, en fait, regardent ce monde-là différemment.
Alors, Émilie Messens, vous êtes sur le terrain depuis quelques années. Vous avez cofondé donc cette association infirmier de rue avant même de me pencher sur ce que vous faites dans la rue et ce que vous proposez aux gens que vous rencontrez. J'aimerais votre regard sur ces deux initiatives. Alors, je sais, pour avoir lu le livre d'Isabelle Barry, qu'à un moment donné, elles vous ont rencontré, qu'elles vous ont suivi dans vos... Enfin, peut-être pas vous, mais en tout cas, une de vos collègues, dans vos déambulations à Bruxelles. Néanmoins, vous qui êtes sur le terrain, vous qui apportez soins, écoute et qui tentez de leur inculquer ou de leur réinculquer certaines notions à la fois d'hygiène, de dignité, etc. Quel regard est-ce que vous portez sur ces deux opérations, l'une artistique et l'autre artistique aussi, celle de Laurent, mais aussi à visée politique? Comment est-ce que vous voyez ça, vous?
C'est différent de ce qu'on fait, donc c'est des choses qui se complètent un petit peu, et je pense que c'est intéressant que chacun ait la possibilité de rencontrer de façon différente la précarité et aussi le monde qui ne vit pas dans la précarité, enfin qui est ce mélange et cette mixité. Donc c'est vrai que nous on travaille pas du tout dans la revendication, mais plutôt dans l'expression des ressources et des forces de chacun. Et donc c'est ça qu'on va essayer vraiment de faire ressortir. Donc c'est un peu différent de chez Laurent. Mais il y a aussi vraiment ce partage d'expériences, cet échange qui renforce finalement chacun et qui peut permettre de changer les choses.
Mmh. Isabelle Barry a parlé de deux mondes différents, vous avez dit.
Oui.
Notre monde, leur monde, un autre monde. Vous diriez ça aussi, vous, Émilie Messens, un autre monde?
Je ne sais pas très bien si je dirais un autre monde, mais disons que c'est simplement un décalage qui s'est fait à un moment donné et qui peut vraiment... c'est juste une situation à un moment donné qui est difficile et qui peut changer et qu'il faut se forcer à se rappeler, que se dire que les choses peuvent revenir comme avant, même si c'est dur à ce moment-là, qu'il y a moyen de changer les choses.
Changer les choses. Ouais, c'est pas facile à dire.
Et vraiment retrouver... confiance en soi, en les autres, et du coup, des changements sont possibles. Ouais. Mmh. Et donc, on n'est pas coincé dans un endroit ou dans une situation. Il y a toujours moyen d'en sortir.
Mmh. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, Isabelle Barry, le fait qu'il fallait tenter d'y aller sans préjugés, sans a priori. Qu'on le veuille ou non, on a tous des préjugés, des a priori, avant de s'engager dans une histoire, quelle qu'elle soit. Quels sont les premiers préjugés a priori qui sont tombés quand vous avez entrepris cette démarche? Et peut-être aussi, quels sont entre guillemets les gaffes que vous avez fait au tout début et que très très vite vous êtes dit, et je poserai la même question à Laurent notamment, quand il s'agit d'envoyer des bénévoles. Vous êtes dit, oula, ça va pas se passer comme ça, c'est pas bon du tout ça.
Il y a des préjugés, d'abord des préjugés aussi parfois positifs, c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que quand on va rentrer dans ce milieu précaire, il y a une grande aide entre eux, que tout le monde s'aime bien, et c'est pas vrai. C'est un monde aussi qui vit comme le nôtre, j'ai envie de dire, où les gens parfois se chamaillent, se disputent, se tapent dessus. Et donc c'est vrai que parfois ça peut être un peu surprenant parce qu'on a un peu notre idée. Très positif de ce monde où il y a une entraide énorme, etc. Et ce n'est pas toujours le cas. Et puis, bien sûr, on a toujours cette idée qu'ils détestent, d'ailleurs, de les représenter avec une bouteille dans un état pas possible. Ce sont des gens qui boivent, qui se droguent, etc. Évidemment, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, quand on a 30 ans de rue, il est clair que la bouteille, ça aide, que ça nous permet de vivre dans un monde, entre guillemets, artificiel, qui fait que la précarité, on peut l'oublier pendant quelques heures. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Alors, il y a le préjugé aussi de sont des paresseux, ils ne font rien, ils n'ont qu'à travailler. Bien sûr que la rue, on ne la choisit pas au départ. À un moment donné, c'est vrai que quand il y a des années de rue, ce qu'on a rencontré, c'est des gens qui, à un moment donné, ne veulent plus s'en sortir, tout simplement, parce qu'ils sont tellement écartés de ce monde réel qu'ils n'en ont plus la force. Après 30 ans de rue, c'est vrai, quand j'ai rencontré des gens qui disaient « je ne veux plus, là, je reste là, tout ce que je veux, c'est qu'on me donne un peu d'argent pour pouvoir m'habiller et manger ». Mais il y a évidemment plein de préjugés qui collent à leur peau et que l'on fait tomber dès qu'on les rencontre, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui se passent dans l'échange qu'on peut avoir. Et bien sûr, nous, en tant qu'artistes, on n'a été que de passage là-dedans. Mais les infirmières de rue comme Émilie et les associations comme Jamais Sans Toi, d'ailleurs pour laquelle on abandonne nos droits d'auteur, qui est une association absolument formidable d'accueil de jour, dirigé par Muriel Sochnikov. Eux, ils sont là tous les jours, et ça, je trouve admirable. C'est ce petit « tous les jours » qui fait que ça peut aussi changer à eux leur quotidien. Moi, j'ai l'impression qu'on a été, en tant qu'artiste, que de passage, qu'on a été une petite pierre de l'échafaudage et qu'on espère, par l'intimité qu'on a pu créer avec eux, pouvoir offrir un autre regard. Mais l'apport de tous les jours est hyper important, ce petit apport quotidien. Et c'est vrai que je pense que c'est plus facile, quand on les voit tous les jours et qu'on leur parle tous les jours, de laisser tomber ces préjugés, bien sûr, que quand on arrive comme ça de notre monde, comme c'était le cas pour nous avec notre sac à dos, notre appareil photo, dans un premier temps caché dans le sac à dos, hein, parce que c'est pas facile au début de pouvoir avoir un lien suffisamment intime que pouvoir faire une photo. Mais c'est vrai que les préjugés sont énormes, et les faire tomber, c'est pas difficile. Alors des gaffes, oui, parfois c'est clair qu'on en fait, on a pris parfois certains risques, parfois bêtement par parler d'une chose mais très vite on revient sur le droit chemin. Alors ce qu'il y a aussi parfois, c'est qu'on doit accepter que le discours n'est pas toujours cohérent. Au début, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'on a rencontré des gens, je me souviens d'un homme qui nous disait « bon, maintenant je dois vous laisser parce que je vais combattre au Vietnam et on se revoit peut-être la semaine prochaine ». Et au début, on est très dérouté par ce genre de discours. On se dit « je vais répondre quoi à ça ?» Et puis très vite, on rentre…
Bon voyage, il faut dire bon
voilà,
voyage.
Voilà, ben exactement. Et très vite, on rentre dedans et après quelques fois, cela s'estompe en fait. Ça s'estompe assez vite. Je dois dire, une fois qu'on décide de faire le premier pas et d'aller de ce côté et de s'accroupir pour être à leur hauteur, parce qu'ils sont quand même souvent assis, hein, c'est une première chose qu'on faisait, et qu'on commence la discussion, très vite les masques tombent.
Émilie Messens.
Oui, moi j'avais juste par rapport aux préjugés, donc le préjugé le plus dangereux, c'est de croire que certaines personnes resteront toujours là-dedans, où justement ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont en rue, et c'est de penser qu'ils y resteront toujours, alors que finalement on voit vraiment donc il y a moyen de sortir de la rue, et il y a quand même plus, pour le moment 30 personnes qu'on suit à domicile et qui avaient 10 à 15 ans de rue derrière eux, et donc ils sont sortis de là. Et c'est ça qu'il faut vraiment se rappeler et se rendre compte qu'il y a moyen de sortir de ce tourbillon, quoi.
C'est un geste politique, hein, cet appel à manifester. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous ont dit « oui, on ira » Laurent Dersel?
D'abord, je voulais rebondir, réagir à ce qui a été dit. Donc, par rapport à Isabelle, il y a une vraie différence dans nos approches artistiques, parce qu'on ne va pas tous faire semblant, on est d'accord. Isabelle, vous disiez culpabiliser personne. Nous, notre intention est de culpabiliser absolument l'Europe. La revendication principale qui tient en une phrase, c'est que les responsables de cette pseudo-année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale de 2010 s'excusent publiquement et s'engagent à lancer 2011, année de lutte réelle contre la pauvreté, et pas une année pour les graphistes, les colloques. Parce que les graphistes ont gagné beaucoup d'argent. Le lobby de la pauvreté en général a gagné beaucoup d'argent, mais le lobby nous a très peu suivis parce que, bien sûr, eux, c'est leur fonds de commerce. Donc la culpabilisation, au sens fort du terme, au sens politique du terme, c'est notre cheval de bataille. En ce qui concerne les préjugés, très honnêtement, personnellement, je n'en avais pas beaucoup parce que pour une raison psychanalytique que je ne connais pas, je me sens extrêmement proche d'un SDF et je crois que je pourrais le devenir demain matin. Ça, c'est une confidence que je n'avais jamais faite à personne. Donc je crois beaucoup à l'effet de loupe. Quand un SDF, ce n'est jamais que un accès à l'humain, mais agrandi 20 000 fois. Simplement, c'est pas policé, c'est pas formaté, c'est pas. Ça nous ressemble tellement que je crois que je n'avais pas trop de préjugés. Ce qui est vrai, Ça, je confirme tout à fait ce qu'a dit Barry, c'est inimaginable. Enfin, on le sait que Marx s'est trompé parce que les pauvres ne sont pas solidaires, mais depuis quelques années, maintenant, c'est, on l'entend tous les jours, c'est la rivalité entre les sans-papiers et les sans-abri. C'est absolument... parce que, voilà, la gestion des sans-papiers s'est faite de telle manière que à raison, les sans-abri disent « Ok, les étrangers, ils peuvent aller dans les hôtels, ils peuvent être payés par l'État si, si on ne leur trouve pas une chambre d'hôtel. Et nous, les vrais Belges, on est à la rue. Et on n'a de recours à rien. » Donc la solidarité, c'est vrai, elle est extrêmement réduite, mais elle n'est absolument pas plus réduite qu'entre vous et votre voisin de palier, croyez-moi. Il y a quand même une chose qui m'a beaucoup frappé, et de nouveau, mais ça, c'est chacun a ça. Mais aussi, quand on est à la rue, c'est cette notion de fierté. La fierté qui, à une autre échelle que nous, avec domicile fixe, mais cette notion de fierté qui peut parfois se résumer à trois petites choses. À un mot, à une manière, à une posture, à une attitude, à un discours. Cette fierté qui les tient debout dans leur volonté. Et c'est là où l'affiche que Hélène Taquet a fait fonctionne magnifiquement bien. C'est une très 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 belle affiche. Et les flyers, on voit très bien que ça touche les SDF, que les SDF représentés sur l'affiche sont clairement des SDF par leur accoutrement, mais ont ce regard fier, de revendicatif. On se lève et on ne va pas se laisser abattre. Mais la complexité de l'âme est telle que, oui, Isabelle disait, il y a des gens, Émilie disait, il y a des gens qui qu'on met à la rue, qui sont à la rue et puis qu'on arrive à remettre, mais il y a aussi les contre-exemples, les gens qui qu'on arrive à remettre dans les appartements, Émilie me contredira pas, et puis qui s'ennuient et qui, pour qui l'appartement a quatre murs, c'est l'enfer, ils quittent leur appartement, ils vont rejoindre leurs copains.
Émilie
n'est pas d'accord, mais
je veux intervenir.
Oui.
Émilie veut intervenir. Parce que justement, donc c'est là-dedans que là j'ai besoin de tous ceux qui écoutent la radio, c'est que donc nous, pour le moment, donc on suit donc les personnes en appartement aussi, et on se rend compte que oui, c'est vrai que certains se sentent isolés. On a parlé tout à l'heure du regard et de l'isolement que les gens pouvaient vivre, que ce soit en rue ou en logement. Et donc ici, donc les 30 personnes qu'on suit attendent justement d'avoir un peu de visite de bénévoles. Donc il y a des personnes qui ont repris goût au jeu d'échecs, ou alors qui veulent aller faire une promenade dans la nature ou quoi. Et donc on cherche des bénévoles pour aller faire du vélo, pour aller se promener, etc. Et pour aller donner...
recréer du lien social.
Oui, pour recréer du lien dans un autre milieu, dans un autre contexte, et aider la personne à se réapproprier son logement. C'est sûr que la vie en rue a été difficile et qu'on a été confronté à beaucoup de choses, et qu'une fois qu'on retrouve un logement, mais voilà, il faut recréer un nouveau mode de vie, et tout le monde a besoin de soutien et d'être entouré. Et donc ici, on fait vraiment appel à des bénévoles qui pourraient avoir une heure tous les 15 jours pour aller faire des visites en home, en appartement, à l'hôpital, et donc pour nous aider là-dedans. Et pour vraiment nous aider à aider ces personnes à retrouver confiance en elles, parce qu'on parlait tout à l'heure de la fierté, et vraiment, donc ça c'est vraiment c'est aussi vraiment ce mode de confiance en soi et en de nouveaux projets, en de nouvelles choses, mais pour ça il faut être entouré pour pouvoir y arriver.
Laurent, et puis je vous lirai, parce qu'on commence à avoir pas mal de courriels qui nous arrivent, et certains assez costauds, donc je vous les lirai juste après. Laurent.
Oui, je voudrais juste proposer à Émilie, infirmière de rue, une joint adventure. Nous vous envoyons tous les volontaires que nous récoltons, mais si vous pouvez bien nous réserver les volontaires jusqu'au 31 décembre, ce sera une excellente mise en bouche pour votre travail magnifique. Qu'ils fassent d'ici le 31 décembre des rencontres avec des flyers en 8 langues, etc. C'est une expérience extraordinaire, parce que je dois dire que nous sommes parce que nous sommes extrêmement peu nombreux et soutenus par personne. Et nous sommes, je dois dire, relativement impressionnés par le nombre de SDF aujourd'hui qui sont au courant. Le bruit s'est répandu très 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 vite. Mais une chose est bien connue, et Émilie ne contredira pas, la première chose que l'on perd quand on est à la rue, c'est le sens du temps. Et donc, de dire oui, je viendrai, avec grande sincérité, le problème, c'est que la probabilité que deux jours après, il est totalement oublié. Donc il faut aller crescendo dans les 10 jours qui nous restent. Il faut un maximum, il faut inonder tous les sens entre tous les abris, toutes les gares de la ville avec des flyers. Il y en a en quantité. Il suffit d'aller sur le site. Et je promets à Émilie que tous ces volontaires fantastiques qui auront eu cette expérience directe avec les sans-abris pendant 10 jours, il y en aura certainement un haut pourcentage qui, je vous enverrai la liste de tous ces gens avec leur adresse mail et vous trouverez vos volontaires.
Je vous rappelle qu'on parle aujourd'hui des sans domicile fixe en compagnie d'Isabelle Barry, co-auteur avec Caroline Wolfsperge. Ah, c'est aussi simple que ça.
Mais oui.
Je vois pas pourquoi je me compliquais la vie. Wolfsperge, donc, voilà, d'un magnifique livre qui s'appelle Juste un regard, un hommage aux Bruxellois de la rue. C'est aux éditions Avant-Propos. Les photos sont magnifiques, elles sont d'une pudeur et d'une, enfin, extrême et d'une beauté aussi. Enfin, je trouve que c'est très beau d'avoir pu révéler autant de beauté et j'espère que tous ceux qui ont vu les photos que vous avez publiées d'eux en ont été fiers et contents. Et puis le texte est d'une sensibilité totale et bien écrit. Voilà.
Merci.
C'est tout le bien que j'ai à en dire de ce livre. Émilie Messène, c'est sont les infirmiers de rue. Si ce n'est que c'est pour surtout des infirmières encore pour le moment. Ou bien vous avez un infirmier maintenant ce coup-ci ?
Non, on est toujours des infirmières.
D'accord. Et puis Laurent Dur, c'est l'artiste plasticien et qui nous parle de cette grande manifestation du collectif Manifestement. Ce sera le 31 décembre. On donnera l'heure exacte et puis le lieu exact encore tout à l'heure et qui est à la recherche de bénévoles pour aller à la rencontre justement des personnes et les appeler à manifester. Alors, plein de courriels, je vous en livre quelques-uns. J'ai assisté, nous dit Claire, à la réunion organisée par la présidence belge de l'Europe concernant les sans-abri. Cela m'a semblé assez navrant. Une des propositions principales était de créer une agence européenne pour lutter contre le sans-abrisme. Je pense que tant que les politiques formuleront des propositions pareilles, le problème ne se résoudra pas. Le problème est une question d'urgence sociale et de survie humaine. Les politiques ont du mal à le comprendre. C'est une question de violence institutionnelle et de déliaison sociale. Le problème est grave et crucial. Au plus on est fragile, au moins on est aider. C'est le même problème quand on rencontre un travailleur accompagnateur Actiris ou un médecin inami ou d'une mutuelle. Il ne faut pas faire d'amalgame, mais les conséquences peuvent être désastreuses. Il faut aussi lutter contre la stigmatisation des professionnels qui n'ont pas vécu le problème et qui font parfois pire que mieux. Voilà, c'est donc Claire qui nous envoie ça et elle signe spécialiste en violence institutionnelle et des liaisons sociales. Patrick, vous voulez réagir, Émilie ?
Non ? Oui, moi j'avais juste une petite réaction à ça, donc j'entendais Laurent qui souriait à cette à cette remarque. Moi, je trouvais quand même cette année de lutte contre le sans-abrisme intéressante, de pouvoir se dire, ben voilà, on se rend compte que la problématique est importante. Tout le monde aspire quand même à un changement de la situation, et là, c'était une volonté de pouvoir au moins réfléchir autour de ce sujet-là de différentes façons. Et donc ça a été une occasion de pouvoir organiser différentes choses. Alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs choses par des graphistes, vous en parliez tout à l'heure, mais en même temps c'est l'occasion aussi de sensibiliser certaines personnes qui n'auraient peut-être pas été cette année-là, enfin cette année-ci, s'il n'y avait pas eu donc, cette année de lutte contre la pauvreté. Et donc même si on ne sort pas, enfin peut-être qu'il y a eu des solutions concrètes qui sont sorties, je ne les ai pas encore eues, mais même s'il n'y en avait pas eu, c'est quand même une année de réflexion qui s'est mise en place et qui est toujours intéressante.
Mm-hmm. Très bien, je suis tout à fait d'accord, mais je voudrais juste alors qu'on rebâtisse cette année 2010, c'était une grande réussite, mais il faut rebaptiser l'année, c'était l'année européenne, pour une conscientisation du problème de l'exclusion et de la pauvreté. Maintenant que tout le monde est conscient, grâce à tous les logos et toutes les conférences qu'on a eues, on peut passer à la vitesse supérieure et commencer par éliminer, s'il vous plaît, cette année qui nous prépare, c'est l'année du bénévolat, vous imaginez bien. Ils n'ont pas dépensé un franc pour les pauvres en 2010, maintenant ils lancent l'année du bénévolat. Donc ça c'est la bonne excuse pour ne pas dépenser un franc du tout, parce que tout le monde est bénévole. Soyons un peu sérieux, tout ça est une vaste plaisanterie, et il est temps que les gens, justement, se fâchent. Et je dois dire, il y a plusieurs SDF qui ont dit, oui mais les politiciens diront quoi ? Et leur tête, quand je leur ai garanti, ils n'avaient l'air d'en douter, qu'il n'y aura pas un seul politique, qu'il n'y aura pas un seul responsable de CPS ou autre, et donc il n'y aura vraiment que nous, et que nous qui pourrons parler, qui pourrons prendre la parole, qui auront notre mégaphone, et c'est des choses très très simples qui n'ont jamais pu se faire, parce que pour des raisons assez catastrophique, apparemment, les précédentes demandes, et je pense ici au Front des SDF, avec qui nous sommes en désaccord structurel, apparemment, le Front des SDF a voulu faire déjà des manifestations de SDF, et la ville de Bruxelles aurait refusé, ce qui est tout à fait incroyable. Donc c'est une première manifestation de SDF, c'est un cri que l'on va pousser, mais il faut passer, il faut arrêter la conscientisation. C'est vrai que c'était très utile, peut-être, mais passons à autre chose.
Alors, il y a quand même quelque chose qui moi, me touche dans ces démarches-là, Laurent Durcel, et puis je lirai encore d'autres mails parce qu'ils sont intéressants. C'est finalement, c'est une réappropriation de l'espace public qui est leur espace, puisque quand on est sans domicile fixe, on vit dans l'espace public, et là, c'est se le réapproprier, mais de manière différente.
Et c'est pour ça que le titre de la première manifestation était justement paradoxal, les SDF descendent dans la rue, mais le jeu de mots était tout à fait intentionnel, puisque effectivement, ils s'occupent de facto l'espace public, mais comme ils sont ignorés, cachés, ou on ferme les yeux quand on passe devant, ce n'est pas du public. Donc c'était justement ça, c'était cette prise de parole publique qu'on leur propose.
Alors Patrick, ici, qui nous envoie ce message, je trouve que l'usage des initiales SDF est terriblement choquant. En effet, cette expression désincarne complètement la personne qui existe derrière ces trois lettres. Je pense qu'il faudrait plutôt parler de personne sans domicile, PSD. Que ce domicile soit fixe ou pas est de peu d'importance. Ne parle-t-on pas aujourd'hui de la personne handicapée, de la personne malvoyante, etc. Ceci ne réchauffera sans doute pas les personnes concernées, mais leur donnera peut-être le minimum d'humanité dont ils semblent aussi avoir été dépouillés. Et puis ici, nous sommes tous SDF dans le système capitaliste. Dans un tel système, le but est toujours plus cher, sachant que la vie n'est pas éternelle, qu'on doit vivre pour vivre et pas condamné à vivre comme maintenant. Personne ne se sent en sécurité, la plupart se logent en sacrifiant toute leur vie, en payant à la banque, quelques-uns qui tiennent les autres en esclaves. Alors SDF ou pas, qu'est-ce que cela change ? Toujours, on a toujours peur du lendemain, et attendez parce que c'est un peu nébuleux. Donc toujours avoir peur du lendemain, pour certains être satisfait d'être un mouton pour manger et produire du matin au soir, courir pour aller faire du shopping avant qu'il ne ferme, être satisfait de voir plus pauvre que nous. Ainsi va la vie sous dictature de capitalisme. Par rapport à cette course, vous y faites référence à plusieurs fois, Isabelle Baring, quand vous êtes justement à hauteur de ceux que vous rencontrez, avec qui vous parlez, oui, que vous photographiez aussi. À hauteur, mais pas seulement à hauteur d'homme, mais aussi à hauteur au niveau du temps. Et Laurent évoquait tout à l'heure la notion du temps qui est forcément différente. Quand on n'a pas un horaire particulier à respecter, quand on ne doit pas être à 8h30 au boulot, quand on ne doit pas déposer un gosse à la crèche ou le récupérer à la fin de l'école, le temps est un autre temps et on vit tous dans nos espaces-temps. Et vous parliez aussi du regard que tout d'un coup vous attrapiez de cette hauteur-là sur les gens qui passaient et donc tout d'un coup, vous perceviez la course. C'est une course que vous avez perçue à partir de ce moment-là ou vous perceviez quand même déjà avant, mais peut-être pas à ce point-là?
Non, je pense qu'on l'aperçoit et c'est vrai que moi, je suis écrivain, c'est un des thèmes que j'utilise beaucoup dans mes romans aussi, c'est cette course au temps, c'est vrai, ce capitalisme qui fait cette société de performance qui fait qu'on court, qu'on veut toujours être meilleur, etc. C'est clair qu'en rencontrant des sans-abri, en passant du temps avec eux, en essayant à un moment donné de se mettre non plus en face d'eux, mais à côté d'eux, et en regardant les gens passer, on réalise une certaine folie en se plaçant de l'autre côté. Et je crois que c'est la grosse différence, comme Laurent le disait tout à l'heure, c'est qu'on perd la notion du temps quand on est à la rue, mais peut-être que nous qui ne le sommes pas, nous avons trop la notion du temps. Et quelque part, il y a une espèce de folie aussi là-dedans. Je crois que le sans-abri, il vit au présent. Je vais manger quoi? Je vais me loger où? Etc. Nous ne vivons malheureusement plus assez dans le présent, peut-être. C'est-à-dire qu'on voit toujours l'avenir plus loin. Combien de fois, d'ailleurs, ce sont des thèmes très à la mode, hein, profiter du présent, vivre l'instant présent, etc. Et donc, il y a une espèce, c'est vrai, de dualité complète dans ces deux mondes, entre ce temps qui file, après lequel on court, etc., et ce sans-abri qui, lui, est assis avec ses sacs plastiques et qui regarde ça comme une espèce de folie. Parce que lui, la notion du temps, ben, il ne l'a plus. Il l'a perdu, c'est peut-être la première chose qu'il perd d'ailleurs, c'est vrai.
Émilie Messens, la notion du temps, c'est la première chose qu'on perd?
C'est en tout cas quelque chose qu'on perd, mais c'est vrai que nous, on essaie de sortir de ça aussi. Et donc, lorsqu'on va avec la personne, on essaie de voir directement avec elle les projets qu'il y a moyen de mettre en place et pour lui redonner aussi confiance dans le futur et les possibilités du futur aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a évidemment les barrières du temps. Et donc, quand on doit accompagner quelqu'un chez le médecin ou à l'hôpital, c'est parfois difficile pour les horaires et suivant la nuit qu'ils ont passée, etc. Mais en même temps, par contre, on essaie vraiment de redonner une vision du long terme avec les possibilités qu'il y aura. Et donc, pourquoi est-ce que ça sert à quelque chose de changer de comportement et de travailler avec les autres personnes qui sont en rue? Parce qu'il y a de nouveau des nouveaux projets qui sont arrivés et ça a donné confiance dans ces projets. Quoi.
Alors, il y a depuis très longtemps, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de personnes sans domicile fixe, il n'y aurait pas ce type d'association, des associations qui, bien évidemment, s'occupent des sans-abri. Mais vous, c'est quand même très particulier parce que ça n'existait pas avant vous, les infirmiers de rue. Donc, il n'y a pas. Vous ne les obligez à rien, vous allez à leur rencontre, vous leur proposez des soins s'il y a lieu, vous essayez de redonner parfois, quand c'est plus le cas, des notions d'hygiène, vous pouvez les amener aussi vers certains endroits, vous soignez les petits bobos, vous regardez s'il n'y a pas lieu d'être vu par un médecin ou parfois même d'aller à l'hôpital quand les choses sont graves, mais avant ça n'existait pas, c'est tout récent votre association.
Disons qu'avant il y avait vraiment tout un tabou autour du manque d'hygiène, que personne n'osait en parler, même entre nous, c'est parfois difficile à dire à quelqu'un qu'il a quelque chose dans les dents ou qu'il sent mauvais, j'en sais rien. Mais donc du coup, il y avait aussi tout un tabou autour du manque d'hygiène. Et donc ici, on s'est dit, à partir du moment où la personne n'ose pas en parler et où les professionnels n'osent pas aborder le sujet avec la personne de peur de briser la confiance, nous, on va briser ce tabou-là en disant, si tant que la personne ne retrouve pas une certaine estime d'elle-même et du coup une certaine attention à elle et à son corps, elle n'arrivera pas à se reprojeter vers d'autres choses. Et donc on a créé cette nouvelle méthode, donc ce travail autour de l'hygiène, donc ce nouvel outil. Et donc c'est vrai qu'en tant qu'infirmière, donc on va à la rencontre des gens en rue et on travaille donc l'hygiène avec eux et un accompagnement donc vers les lieux où ils peuvent se soigner. Donc c'est vrai que c'est très rare les fois où on fait des soins en rue. Ça arrive, mais c'est très rare, donc c'est plutôt un accompagnement et un retrouver confiance en soi par les soins d'hygiène. Et une fois, ce qui est génial, c'est qu'on voit qu'une fois que l'habitude est revenue, revient petit à petit, tout d'un coup, il y a vraiment un déclic dans la tête des gens qui fait que tout d'un coup, tout devient possible. Les gens voient que le regard autour d'eux a changé sur eux et eux-mêmes changent de regard sur eux, donc ils marchent différemment aussi. Tout fonctionne différemment et donc tout d'un coup, les autres travailleurs sociaux aussi reprennent confiance en se disant « Tiens, maintenant, je peux le présenter à un propriétaire ou plusieurs travailleurs différents. » Et donc, il y a vraiment eu... par exemple, il y a eu un patient comme ça qu'on a suivi pendant 2 mois et demi. Ça faisait 13 ans qu'il était en rue. On l'a suivi pendant 2 mois et demi, on a été chaque semaine lui donner une douche dans une association. Alors au début, ça prenait 6 heures, puis 5 heures, puis 4 heures, et ainsi de suite. Mais à la fin, au bout des 2 mois et demi, lui avait repris confiance en lui, les travailleurs sociaux aussi. Et maintenant, il est en logement, il fait une collection de chapeaux, il collectionne des maquettes. Enfin, c'est vraiment... et c'est pas la seule situation. Là, j'en ai cité qu'une, mais les 30 qu'on suit, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment un nouvel outil qu'on a mis en place de travailler autour de l'hygiène. C'est pas toujours évident pour les professionnels. Donc, c'est pour ça qu'on fait aussi des formations pour les acteurs médicaux, les travailleurs sociaux, les agents dans les gares, les métros, les gardiens de parc. Donc, pour voir un petit peu comment améliorer la situation, vu que la problématique de l'hygiène est quelque chose de transversal et qu'il faut essayer de la travailler pour améliorer la relation avec les autres et avec soi-même.
Ici, Tess qui nous envoie ce courriel. Malheureusement, dans notre société individualiste, ceux qui se portent bien ne pensent que très peu aux autres et je trouve cela choquant. Il faut rappeler que personne n'est à l'abri d'un tel malheur et je parle en connaissance de cause. Famille de 6, nous avons tout perdu et sans l'aide de la famille, nous serions retrouvés à la rue parce que nous étions très bien lotis. Pourtant, nous étions très bien lotis. Les gestes à faire sont énormes, mais passent également par de petites choses. Dans la période actuelle où l'on nous parle de gaspillage, pourquoi ne pas mettre la nourriture chaude dans un ravier et prendre la peine de la donner au SDF du coin? J'ai fait cela et je dois dire que de toute ma vie, aucun être humain n'a été aussi reconnaissant de ce simple geste. Pour ma part, j'en sors grandi. Je voudrais à présent me retourner à nouveau vers vous, Laurent Durcel. Quels sont les premiers échos que vous avez quand vous leur dites voilà, c'est une manifestation qui est votre manifestation, même si c'est vous qui l'organisez, si c'est d'autres qui en ont eu l'idée, il n'y aura pas d'homme politique, etc. C'est pour clôturer en beauté cette plaisanterie donc cette année européenne et peut-être pour inciter, pour pousser un coup de gueule quoi, et pour inciter à ce que demain, en 2011, on fasse vraiment quelque chose. Quelles sont les réactions que vous recevez, que vous récoltez? Qu'est-ce qu'ils vous disent?
et il y a extrêmement peu de réactions négatives, c'est-à-dire les réactions négatives, c'est qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez de l'argent et qu'est-ce que vous avez comme travail à proposer. Et là, nous dégainons notre identité d'artiste ou de simple citoyen. Et mais ceci est vraiment une toute petite minorité. Une fois qu'ils ont compris le projet, et c'est ça l'avantage de ce projet, c'est qu'il est incroyablement simple. C'est ça que j'explique aux volontaires. Il suffit de dire, saviez-vous, oui ou non, que c'était l'année européenne de lutte contre la pauvreté, et que la réponse soit positive ou non. Puisqu'ils sont à la rue, la question suivante est un peu rhétorique. Est-ce que vous avez senti la différence? La réponse est bien sûr non, puisqu'ils sont toujours à la rue. Et donc, est-ce que vous voulez le manifester publiquement? Donc c'est très difficile de ne pas comprendre et très difficile de ne pas être d'accord, de saisir cette occasion. Donc ils savent très bien que, et je dois dire que le mot artiste fonctionne magnifiquement, surtout avec un porte-voix, parce que parfois je vais dans des associations avec un porte-voix, ce qui met tout de suite une ambiance de manifestation. Ils comprennent très bien que nous n'avons rien d'autre à proposer que le dispositif que nous avons mis en place, qui est, voilà, nous avons les autorisations, il y a même un atelier, ça c'est une chose dont je voudrais parler un quart de seconde, c'est que nous avons un atelier la semaine, donc à partir de lundi prochain, du 27 au 31, ouvert aux SDF qui le désirent, et il y en aura, et ça va être une ambiance absolument fantastique, mais nous manquons encore de volontaires, suivez mon regard, manifestement.be, pour permettre aux sans-abri de faire des calicots, de faire des masques éventuellement pour ceux qui veulent rester anonymes pendant la manifestation. Donc l'accueil est tout à fait positif. Le seul problème, c'est est-ce qu'il ne fera pas trop froid, est-ce qu'il ne pleuvra pas. La neige, ça ne fera pas peur, mais s'il ne pleuvra pas, ce serait dramatique. Et je dois dire aussi que, pour anticiper une question qui ne manque pas, qu'est-ce que vous faites après? Ben, il est bien entendu qu'après, il y a un grand réveillon au Jésus, c'est-à-dire qu'un ensemble d'associations nous ont contactés pour co-organiser le réveillon des précaires et des résistants, bien sûr intitulé Réveillons l'Europe. Donc une des grosses animations, ça va être un immense cri qui va faire trembler les murs du Jésus. Mais il y aura de la nourriture, bien sûr.
Et les bobos apportent le champagne, c'est ce que
et
j'ai
les
vu.
Les bobos apportent le champagne, l'entrée de 1 euro pour tout le monde. Et mon rôle principal dans ce réveillon, ce sera que la nourriture est à prix libre, à savoir bien entendu les SDF vont rien payer, mais je me fais fort d'identifier les bobos qui voudraient s'encanailler dans une ambiance autre le 31, qu'ils vont payer le prix très fort pour ce qu'ils vont manger ce soir-là, afin de récolter un maximum d'argent pour le Jésus qui nous accueille.
Alors on a beaucoup de courriels de gens qui témoignent, et notamment de ce qui se passe quand ils donnent de l'argent, etc. Et puis ici, je vais vous lire ces deux styles, du bien que ça leur fait. Enfin, je veux dire, c'est parfois toujours un peu étrange, mais lorsque je donne une pièce à une personne qui mendie, nous dit François, j'essaie toujours d'avoir un contact avec la personne. Souvent, ces personnes sont transparentes. On ne veut pas les voir. Un sourire, une parole leur font du bien aussi. J'ai un jour vécu une expérience pénible. Je donnais une pièce à une personne dans le métro. Une jeune fille me dit, il ne faut pas donner de l'argent à ça. Je lui ai répondu, ça est un être humain. Voilà, c'est Françoise qui nous envoyait ceci. Et cet autre, c'est José, qui a 64 ans et qui dit qu'il est toujours actif. Il dit, bonjour, j'entendais une conversation dans un restaurant qui donnait ceci. Il faut prendre de l'argent où il se trouve, mais où? Chez les pauvres, mais les pauvres n'ont pas d'argent. Oui, mais ils sont nombreux. Voilà la mentalité de notre société. Ce monde est fini et sans espoir. Isabelle Barry, un monde fini et sans espoir?
Non, quand même, j'irai pas jusque là. Et ce qui se passe ici autour de la table en est la preuve aussi. Mm-hmm. Par contre, ce que je voudrais évoquer ici, ce qu'on n'a peut-être pas évoqué, c'est que l'idée d'un livre, juste un regard, qui est l'idée quand même de sensibiliser les gens, ou l'idée, comme Laurent en parle, de pousser un cri, hein, d'un cri de rage, de faire du bruit, de montrer, ou bien les choses magnifiques que font les infirmières de rue, c'est-à-dire essayer d'aider pour qu'ils s'en sortent, c'est quand même la preuve qu'il y a un espoir, qu'on peut faire bouger les choses.
Oui, et puis le fil rouge quand même entre vous trois, enfin peut-être moins pour Émilie, oui. Mais on est là dans vraiment le très concret de l'aide apportée, mais à la fois pour vous et pour Laurent, finalement, c'est de rendre visibles ce qu'on appelle parfois les invisibles.
Tout à fait. Mais il y a une complémentarité dans toutes ces choses-là qui fait que chacun tout seul ne fait pas le travail, mais tous ensemble, oui. Par contre, je pense qu'il y a le côté préventif qu'on n'a pas parlé, parce que c'est vrai qu'on ne choisit pas la rue. Les gens qui y arrivent, ils y arrivent d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'on a rencontré, nous, des gens tout à fait bien, qui à un moment donné ont fait une dépression, par fierté, n'ont pas voulu contacter ni leur famille ni leurs amis, se sont retrouvés comme ça à la rue. Mais la plupart des gens qu'on a rencontrés étaient quand même issus d'un milieu ou social ou financier très défavorable. Alors là, c'est un peu ce qu'on lance comme appel aussi, c'est de se dire à un moment donné, voilà, les gens qui sont à la rue, il faut essayer de les en sortir, il faut les aider, il faut pousser des cris, il faut montrer pour que les choses changent. Mais est-ce qu'on n'essayerait pas aussi que les gens n'arrivent plus à la rue ?
Il faut peut-être rappeler qu'aujourd'hui en Belgique, il y a 17% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Oui, juste aussi par rapport au fait de rendre visibles ceux qui seraient invisibles. C'est de la même façon, si jamais, en écoutant donc cette émission, vous voyez régulièrement quelqu'un qui est près de chez vous, c'est aussi important de nous le signaler, parce que parfois on n'est pas au courant que quelqu'un vit en rue, dans un quartier parfois plus reculé et plus écarté des associations. Enfin, il est parfois moins connu, il sait moins où aller. Et donc c'est important parfois de nous signaler qui est là, si la personne le veut bien, ou si vous ne savez pas, soit si vous avez peur d'aller lui parler, soit si elle veut bien qu'on fasse le message. Alors dites-le nous, envoyez un mail à un infirmier de rue pour qu'on puisse voir que faire avec elle.
Il reste 1:20, alors c'est le moment de redonner, donc pour Isabelle Barry et Caroline Wolfsberg,
je vous aide.
Aux éditions Avant-Propos, ça c'est dans toutes les bonnes librairies, et vos droits d'auteur sont intégralement reversés à
l'association Jamais sans toi.
Ouais. Laurent Durchel, pour vous retrouver sur le net.
Donc très facile, on trouve le site du collectif Manifestement, c'est manifestement.be. Là vous avez toutes les manifestations prévues, et vous cherchez la manifestation 2010 bis, parce que la 2010 n'a pas eu lieu, là c'est la 2010 bis, et là vous avez toutes les informations, et notamment l'appel à volontaires pour l'atelier, et surtout pour rencontrer les SDF dans la rue d'ici le 31, et il en faut de plus en plus.
Émilie Messens.
Oui, donc nous c'est www.infirmierderue.be, ou alors info@infirmierderue.be pour devenir aussi de bénévole, ou alors nous signaler quelqu'un.
Voilà, on a évidemment toutes vos coordonnées, hein, donc si les gens n'ont pas eu le temps de noter, eh bien sachez qu'on vous les donnera. Merci à toute l'équipe, Tissama Nachour, Catherine Sorel, Sandra Veras, et aujourd'hui à Léanard à la réalisation. On se retrouve demain. Bonne fin de matinée.